Alors bonsoir à ceux qui nous ont rejoints. J'ai l'impression que c'est un peu fort là, non ? Donc, comme ça, je vais parler lentement. Et si j'en vois qui baissent la tête, je parlerai plus fort. Non, ça va. Alors bonsoir à tous et à toutes. Et donc, nous continuons ce soir notre série sur le Saint-Esprit, Focus Bible. Donc, la semaine dernière, on a déjà abordé qui était le Saint-Esprit en quatre points. Alors, pour ceux qui ont raté l'épisode, je crois que ça a été enregistré. Hein. Voilà, donc vous pourrez récupérer les enregistrements. Et même si vous n'avez pas raté l'épisode, mais vous avez envie de le réécouter, c'est toujours intéressant parce que c'était très riche. Et voilà, ça fait du bien de réécouter les bonnes choses de la parole de Dieu. Ce soir, donc, on continue sur le thème du Saint-Esprit et particulièrement sur ce qu'on appelle les charismes ou les dons spirituels. Et on verra tout à l'heure que ce n'est pas une expression forcément correcte, mais bon, ce n'est pas grave. Et ce soir, donc, c'est particulièrement sur la prophétie. Alors voilà comment j'ai organisé la soirée. J'ai organisé la soirée en trois parties. Une première partie où je vais parler un petit peu de la prophétie d'une manière générale. Une deuxième partie où je vais parler de la prophétie plutôt sous la forme du don de prophétie ou de la parole de prophétie, comme on le trouve dans 1 Corinthiens 12. Et une troisième partie sur des conseils pratiques pour ceux qui ont envie de démarrer dans le domaine de la parole de prophétie. Et puis des conseils pratiques aussi pour ceux qui reçoivent les prophéties. Voilà, parce qu'on va voir que la prophétie, ça a des aspects surprenants. Voilà, donc ça sera les trois parties. Et puis la quatrième partie que je vous propose, c'est un moment de chant, de prière, de consécration, pour qu'on puisse, chacun de nous, ce soir, repartir visité par notre Dieu, par le Saint-Esprit, renouvelé. Peut-être pour ceux qui le souhaitent, qui ont envie et de repartir en parlant ou en chantant en langue. Pour d'autres qui le souhaitent, qui le désirent, de repartir en ayant démarré ou redémarré le don de la parole prophétique. Voilà. Je suis très ambitieux pour chacun de nous ce soir, mais je suis persuadé que c'est important pour chacun de nous, les jeunes comme les moins jeunes, les messieurs comme les dames, d'être revêtus du Saint-Esprit ce soir, de repartir en parlant en langue et en ayant la capacité de prophétiser. Parce que c'est, comme on le verra, quelque chose qui nous est offert à tous et à toutes. Voilà. Alors pour commencer, donc la première partie sur la prophétie en général, on va prendre un verset. Et puis j'ai oublié mon livre. Norbert, il avait amené des gros livres la dernière fois, ça faisait très sérieux. Moi, je les ai oubliés. Et je me suis basé sur des enseignements dont Norbert avait parlé, d'un monsieur qui s'appelle Grudem, c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Mais pas que de lui. Voilà. Et donc, ce que je vous propose, c'est de regarder un. Alors, il y a beaucoup de versets qui parlent de la prophétie dans la Bible. Et il m'a semblé que celui que nous allons lire pour commencer était un des meilleurs. C'est pour ça que j'ai choisi. Donc je vous propose de lire dans Hébreux, au chapitre 1, les versets 1 à 3. Donc Hébreux, ça se trouve à la fin. Chapitre 1, les versets 1 à 3. Voilà comment ça commence. Donc, après avoir autrefois, à bien des reprises et de bien des manières, parlé au Père par les prophètes, Dieu nous a parlé en ces jours qui sont les derniers par un Fils qu'il a constitué héritier de tout et par qui il a fait les mondes. Ce Fils est le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité même. Il soutient tout par sa parole puissante. Voilà, on va s'arrêter là. C'est des versets qui sont connus, hein, qui sont très beaux. Alors, on apprend, en quelques phrases, on apprend beaucoup de choses sur Dieu. Et la première chose qu'on découvre dans ces versets, alors on ne la découvre pas parce qu'on le sait tous, hein, mais la première chose qu'il faut relever dans ce verset, c'est que Dieu parle. Dieu parle. Dieu nous a parlé. C'est ce que dit l'auteur. Il dit, il a parlé au Père, hein, c'est-à-dire aux générations précédentes, aux générations passées. Il a parlé d'une certaine manière. Aujourd'hui, il nous parle encore d'une autre manière. Mais Dieu nous a parlé. C'est vraiment la base de ce qu'on appelle la révélation de notre Dieu. Pour tous ceux qui ont cherché Dieu, on s'est rendu compte qu'il était inaccessible si ce n'était pas lui qui venait nous parler de qui il était. Et Dieu inaccessible, Dieu tellement éloigné de nous à cause de notre condition de ce que la Bible appelle le péché, hein, la séparation qu'il y a entre les êtres humains et Dieu, Dieu est inaccessible. Mais nous le connaissons parce qu'il parle, parce qu'il se fait connaître. Il parle de lui et il parle à nous. Il nous parle. Alors le verset dit Dieu nous a parlé de différentes manières, autrefois, à bien des reprises. Hein, on sent qu'il y a une insistance. Il a parlé aux générations précédentes, aux pères, par les prophètes. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans le thème là, de ce soir, quand même. Un deuxième élément du thème, Dieu nous parle, ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'il y a tout un historique derrière nous. Dieu a parlé par des prophètes. Et la nouveauté sur laquelle veut insister l'Épître aux Hébreux, c'est que Dieu nous parle encore aujourd'hui, mais plus par des prophètes. Il nous parle par le Fils, par Jésus, par le Christ, par Dieu fait homme qui a vécu au milieu de nous. Voilà, donc c'est cette introduction, c'est ce verset qui nous fait démarrer dans le thème. Premier point, Dieu parle, il parle par les prophètes, et surtout il parle au travers de Jésus. Alors, un prophète, dans notre jargon chrétien, on aurait tendance à dire c'est quelqu'un qui parle pour Dieu, hein, qui donne les paroles de Dieu. Mais le mot est plus large que ça. Le mot, il pourrait être utilisé pour quelqu'un qui parle à la place de quelqu'un d'autre ou qui de la part de quelqu'un d'autre. On pourrait dire c'est un porte-parole. Hein, le mot prophète, donc ça fait partie de cette liste de mots qu'on n'a pas traduit des langues étrangères qui ont composé la Bible. On a gardé le mot, pensant que ça ferait mieux, ou peut-être parce qu'on ne savait pas trop comment le traduire. Exactement, mais voilà, on pourrait dire que c'est un porte-parole. Et lorsqu'on parle de la prophétie, eh bien, il faut avoir en tête que Dieu parle et qu'il y a des porte-paroles pour faire entendre Dieu. Et c'est tout l'intérêt de ce que veut dire l'Épître aux Hébreux, c'est qu'avant Dieu parlait par les prophètes aux générations précédentes, mais aujourd'hui, il nous parle par le Fils. C'est-à-dire que le porte-parole, le Fils, eh bien, c'est Dieu lui-même. Et vous imaginez que le message, forcément, est bien plus fort, bien plus complet, bien plus puissant. Alors, pour continuer, alors oui, si vous avez des questions, des remarques, hein, n'hésitez pas à m'interrompre et à les faire, pour que ça soit un échange vivant. Donc, je vous propose tout de suite d'écouter ce fameux monsieur Grudem, qui parle sur la prophétie. La prophétie est le moyen habituel par lequel Dieu communique avec son peuple dans l'histoire biblique. L'histoire de la prophétie, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est l'histoire d'un Dieu qui parle à son peuple par l'intermédiaire de messagers humains. C'est donc l'histoire des relations de Dieu avec son peuple, dans leur diversité, dans des relations de Dieu avec d'autres peuples. En parlant par des prophètes, Dieu guide des rois et d'autres personnes en leur indiquant comment agir dans telle ou telle situation particulière. Il met en garde ceux qui lui désobéissent. Il annonce des événements qu'il va faire advenir. Il interprète les événements qui arrivent et démontre que lui seul est à la fois le maître de l'histoire et aussi le Dieu qui entretient une relation personnelle avec son peuple. Donc on est au cœur de la prophétie et d'une manière générale, dans le sens biblique, la prophétie, donc c'est le moyen par lequel Dieu se fait connaître. Il parle avec son peuple par l'intermédiaire de messagers humains et c'est le mode de relation, on pourrait dire, que Dieu a choisi pour être en relation personnelle avec son peuple. Donc ça, ce qui est très intéressant, c'est que la prophétie, c'est le moyen que Dieu a choisi pour être en relation personnelle avec son peuple. Si on reprend le verset là qu'on a lu des Hébreux, dans les anciens temps, à l'époque de l'Ancien Testament, c'était au travers des prophètes. Dans le Nouveau Testament, c'est directement avec Jésus. Et on l'a lu, hein, c'est son reflet, l'empreinte de sa personne, selon les traductions, hein, le rayonnement de sa gloire, l'expression de sa réalité même. Voilà, et donc là, on est au cœur de la théologie du Christ. Le Christ, Jésus, c'est Dieu, c'est l'homme-Dieu qui parle aux hommes. Alors Grudon, je vous propose d'écouter un autre passage sur lequel il parle de la prophétie dans la Bible. D'une manière, en quelques phrases, il va nous donner un petit peu les aperçus des étapes de la prophétie dans la Bible. Les principes bibliques de base de la prophétie et des prophètes se trouvent dans le Pentateuch. Donc le Pentateuch, hein, sont les 5 premiers livres de la Bible, que les Juifs appellent la Torah, hein, donc Genèse, Exode, aidez-moi, Lévitique, Nombre. Ah, voilà, je l'avais oublié tout d'un coup. Et donc, on trouve ses fondements dans le Pentateuch, et en particulier avec Moïse. Moïse, c'est vraiment le premier prophète qu'on trouve. Il n'y aura cependant pas vraiment d'office prophétique, ni de communauté de prophètes, de second rang, jusqu'à la période des livres historiques et des écrits prophétiques. Donc les livres historiques, ça commence à Josué, Juges... les rois, 1 et 2 Samuel, les chroniques, etc. Et les écrits prophétiques, ben c'est tous les écrits de Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, Daniel, Joël, etc. Dans les évangiles, Jésus est considéré comme un grand prophète, mais aussi comme beaucoup plus qu'un prophète. Le livre des Actes et les Épîtres mentionnent un don de prophétie accordé aux chrétiens, d'autorité moindre que la prophétie biblique, mais beaucoup plus répandue. La prophétie est considérée comme le meilleur des nombreux dons que le Saint-Esprit fait à l'Église. La Bible s'achève sur un tableau solennel, mais somptueux de l'avenir, dans la prophétie de l'Apocalypse. Donc voilà un petit peu résumé en quelques phrases, hein, l'impact de la prophétie tout au long de la Bible, et donc on voit que c'est présent partout. Donc Moïse est appelé le premier prophète et ami de Dieu. Dans Exode 33, 11, on peut lire « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. » Ça, c'est assez remarquable. Vous voyez ? Donc, on se rend compte que Moïse est le premier prophète, et on se rend compte que le prophète, il avait justement une relation personnelle avec son Dieu. Moïse parlait à Dieu comme à un ami, face à face. Et on voit un petit peu plus loin que la promesse que Dieu fait à Moïse vers la fin de sa vie, c'est qu'un plus grand prophète que lui sera envoyé par Dieu. Alors, c'est une promesse qui est énorme comme une montagne, parce que Moïse, c'était quand même le plus grand pour le peuple hébreu. Il n'y avait pas plus grand que Moïse. Ils imaginaient qu'il y aurait le Christ, l'envoyé du Messie, il serait plus grand que Moïse. Mais Moïse, c'était le summum, et ça l'a été. Mais Dieu dit à Moïse, j'enverrai au peuple un prophète qui sera plus grand. Hein, on lit ça dans Deutéronome 18, 15 et Deutéronome 18, 18. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Et on voit tout au long de l'Ancien Testament qu'il y a eu une succession à différentes époques de prophètes. Mais vraiment, l'accomplissement de cette promesse, elle est en Jésus. puisque Jésus est bien plus qu'un prophète. Et on l'a lu dans Hébreux 1. Non seulement il est un prophète par lequel Dieu nous parle, mais c'est Dieu lui-même. Alors ça nous dresse un portrait d'une prophétie qui est, on pourrait dire, assez majestueuse, assez de haut niveau. Et peut-être on ne se sent pas forcément concerné par ça. Mais en même temps, Dieu fait la promesse à Moïse d'un jour où tout le peuple prophétisera. Et vous connaissez cette histoire où Moïse, qui avait la charge du peuple, le peuple n'était pas toujours très agréable, même parfois pénible, on pourrait dire, et Moïse reçoit un conseil de la part de son beau-père, comme quoi tout peut arriver, qu'il a intérêt à déléguer, pour dire ça dans des mots modernes. Et donc, il y a tout un processus où Moïse et le peuple choisissent 70 anciens qui vont aider Moïse dans la conduite du peuple. Et vous connaissez ce passage où il est dit que l'Esprit qui était sur Moïse, donc c'est une jolie périphrase pour dire le Saint-Esprit, est allé sur les 70. Et donc, ces 70 sont mis aussi à prophétiser, de la même manière que Moïse. Et il y a cette histoire où il y en avait deux qui avaient été choisis dans les 70, qui n'étaient pas là au bon moment. Ils étaient encore dans les champs en train de cultiver, ou je ne sais pas quoi faire, parce que dans le désert, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pouvait cultiver. Bref, ils n'étaient pas là. Et là où ils étaient, ils ont quand même reçu le Saint-Esprit de la même manière que les 68 autres. Et Josué, qui était le bras droit de Moïse, et qui a dû vouloir faire du zèle, peut-être ce jour-là, est venu leur dire, et Moïse, ils n'étaient pas là, mais ils ont quand même prophétisé, va leur dire d'arrêter, s'il te plaît. Et Moïse répond, es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Donc on voit dans cette histoire que non seulement la prophétie n'est pas réservée qu'à des grands hommes, entre guillemets, ou des grandes femmes, dans les autres histoires de la Bible, mais que c'est réservé aussi à tout le peuple. Et les 70 qui avaient été choisis pour aider Moïse dans la tâche de gouverner ont été les premiers à être en capacité de recevoir la prophétie. Alors ce que Moïse souhaite, c'est pas qu'il y ait tout le peuple qui prophétise pour faire du spectaculaire. Ce n'est pas ça qu'il souhaite. Ce qu'il souhaite, que Moïse recherche, c'est que la relation personnelle qu'il avait avec Dieu, eh ben, tout le peuple puisse y participer. C'est ça qui l'intéresse. Parce qu'en tant que prophète, il était ami de Dieu et il a envie que chacun du peuple vive cette intimité et cette relation avec Dieu. Donc on peut voir dans l'Ancien Testament qu'il y avait en quelque sorte, alors c'est moi qui dis ça, soumis à mon interprétation et peut-être je raconte quelque chose d'énorme, mais j'ai l'impression qu'on peut discerner dans l'Ancien Testament qu'il y avait deux catégories de prophètes. Il y avait ce qu'on appelle les grands prophètes, dont on connaît tous les noms. Et puis on voit à chacune des époques qu'il y avait des petits prophètes, alors je dis petits, on va plutôt dire des prophètes de la vie courante. Et on voit ça, il y avait des communautés de prophètes, à l'époque d'Élie, d'Élisée, à l'époque de David, etc. Et ces gens-là, ils prophétisaient, mais on ne nous raconte jamais dans la Bible, ou très rarement, qu'est-ce qu'ils prophétisaient. Non, mais ils manifestaient la présence de Dieu dans le peuple en étant, en offrant ce don de parler de la part de Dieu aux gens du peuple dans leur vie courante. Alors, je fais un grand bond en avant dans l'histoire, et on passe de Moïse à Joël. Et dans Joël 3, versets 1 et 2, vous connaissez bien ces versets qu'on connaît par cœur, où Joël prophétise « Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. » Vous voyez, il y en a pour tout le monde, hommes, femmes, jeunes, vieillards, enfin moins jeunes, « et vos jeunes gens auront des visions. » Même les serviteurs et les servantes. Alors là, on a une traduction gentille. C'est même les esclaves et les esclavesses, je ne sais pas comment on dit. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Voilà, donc on voit l'intention forte de Dieu de répandre son esprit, hein, encore une fois, parce que ce que vise Dieu, c'est la relation personnelle avec son peuple. Et on le verra, on le sait, Dieu vise non seulement la relation personnelle avec son peuple, mais la relation personnelle avec les autres peuples. La preuve, c'est que nous qui ne sommes pas hébreux ni juifs, eh ben, on est en relation personnelle. Voilà. Et alors, on fait encore un grand bond dans l'histoire, et là, ça trouve un accomplissement tout à fait particulier. Le jour de la Pentecôte, hein, on peut lire ça dans Actes 2, 16, 18, vous connaissez bien, hein. On ne va pas prendre le temps de le relire. Mais le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est à nouveau répandu sur tous les disciples qui étaient assemblés, et ils se mettent aussi à prophétiser. Et c'est même Pierre qui, dans son discours, juste après, qui va citer Joël en disant la prophétie de Joël que vous attendez, que nous attendions. Alors le « nous », c'est le peuple juif, le peuple hébreu qui attendait que la réalisation de cette promesse se fasse. Il dit « elle est accomplie, cette promesse, aujourd'hui ». Et elle est accomplie, mais ça ne veut pas dire qu'elle s'arrête. C'est-à-dire que c'est le point de départ de son accomplissement qui dure jusqu'à maintenant. Alors il y a une différence à noter entre la prophétie dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, les prophètes dirigent le peuple. On a des exemples avec Moïse, avec les juges, avec Samuel. Les prophètes donnent des directions au roi. On a des exemples avec David, avec Élie, Élisée, avec Ésaïe, avec Jérémie. Ils donnent des directions au roi pour la sauvegarde du pays, pour des interventions, pour des interprétations de ce qui va se passer, pour prendre des bonnes décisions au niveau de la nation. On a un exemple frappant avec Joseph, hein, qui en tant que prophète a même été capable pour un peuple non juif, un non hébreu, les Égyptiens, était capable de prendre des décisions politiques qui ont permis au pays de traverser les épreuves de la famine. Voilà, ils annoncent principalement ce que Dieu veut, sa volonté, son plan, sa rédemption. Ils annoncent le Christ tout particulièrement. Et là, on peut penser bien sûr à Ésaïe, à Jérémie, à Ézéchiel. Les prophètes sont là aussi pour donner des avertissements. Là, on peut penser à Jérémie, à Amos, à Michée. Quand le peuple commençait à dérailler un petit peu ou même beaucoup, Dieu donnait des avertissements à son peuple pour faire revenir Israël à son Dieu. Et donc, Dieu fait la démonstration de sa souveraineté dans l'histoire. Ainsi, il démontre aussi l'amour de la sainteté qui caractérise sa relation avec son peuple. Mais dans l'Ancien Testament, la parole... La Bible écrite n'existait que pratiquement pas. Il y avait, pour ainsi dire, que la Torah. Puis les choses se constituaient au fur et à mesure des époques. Hein ? Puisque le livre de Jérémie, il n'existait pas avant que Jérémie vive, forcément. Tandis que dans le Nouveau Testament, on a une autre manière de connaître la volonté de Dieu, c'est qu'on a la Bible écrite. Hein ? Et donc, on a un changement. Il y a tout qui tombe. On a un changement, c'est que dans le Nouveau Testament, on le verra un petit peu tout à l'heure aussi, le rôle de la prophétie va un petit peu diminuer. Alors que dans l'Ancien Testament, il était très important, puisqu'ils avaient entre guillemets que ça. Dans le Nouveau Testament, on n'a plus que ça, on a tout ça, et on a encore la prophétie. Donc dans le Nouveau Testament, les Écritures sont constituées, elles prennent le dessus et l'autorité. Elles prennent l'autorité sur la prophétie. Les Écritures deviennent la base et le fondement de la foi et de la direction de Dieu à son peuple. La prophétie devient secondaire. Ça ne veut pas dire qu'elle est inutile, hein, mais elle vient en second. Et son autorité se place en dessous de l'autorité de la Bible. La prophétie reste un canal au milieu des autres, donc un canal pour que Dieu nous parle, au milieu des autres comme... au milieu de la prédication, de l'enseignement, etc. Donc la différence entre la prophétie et l'enseignement, c'est important aussi d'en parler. L'enseignement, on pourrait dire que c'est le fruit d'une méditation consciente du texte et une recherche de l'application à la vie quotidienne. Alors que la prophétie, c'est plutôt quelque chose qui va venir soudainement à l'esprit. C'est plus de l'ordre du spontané. Donc, je viens de le dire, la prophétie, pour nous, puisqu'on est dans la période du Nouveau Testament, a moins d'autorité que l'Écriture. Par exemple, on peut voir que Timothée n'a pas reçu de Paul l'ordre de prophétiser des instructions, mais il a reçu l'ordre d'enseigner les instructions que Paul avait données. Aux Thessaloniciens, Paul dit de s'attacher à la tradition des enseignements que Paul leur a donnés. Il ne dit pas de s'attacher aux prophéties qui leur ont été données. Donc ça, c'est un point important. Alors revenons à la prophétie. Certains milieux pensent que les prophètes du Nouveau Testament... Vous savez, oui, il y a une analogie. On lit que dans l'Ancien Testament, il y avait la loi et les prophètes. Et dans le Nouveau Testament, on trouve dans quelques versets le fondement des apôtres et des prophètes. Et donc les gens se sont dit, mais c'est quoi ces prophètes? Parce que les apôtres, on a compris que c'était les gens à qui Dieu a délégué la capacité d'écrire les écrits du Nouveau Testament. Hein, et c'est comme ça que dans le Nouveau Testament, ils sont appelés apôtres, ils ne sont pas appelés prophètes. Voilà. Donc, la transmission écrite et orale de la parole de Dieu, du message de Dieu et du message de Jésus, est désormais liée aux enseignants, aux pasteurs, aux docteurs. On trouve aussi le mot de maître. Et donc la prophétie devient un second rôle face au rôle principal de l'enseignement. Mais dans le même temps, elle devient de plus en plus répandue. La prophétie devient la parole donnée à des chrétiens ordinaires et non plus des ministères particuliers comme on le voyait dans l'Ancien Testament ou comme on peut le lire dans Éphésiens 4 ou Romains 12. Vous savez, ces deux chapitres où on a des listes de rôles particuliers. Donc la prophétie devient la parole de chrétiens ordinaires, mais ces chrétiens ne parlent pas avec le même niveau d'autorité que les Écritures. Les prophéties du Nouveau Testament, le don de prophétie en particulier, sont données par des chrétiens ordinaires qui font part de ce que Dieu leur met à l'esprit dans une situation particulière et ordinaire. Et on voit que par ce moyen, donc, Dieu continue toujours à parler à son peuple avec proximité. Par les Écritures, l'enseignement, l'étude de la parole, là, Dieu nous parle avec une grande autorité, quelque chose qui va avoir un poids important et qui va demeurer pour toute notre vie et puis de génération en génération. Par la prophétie, Dieu nous parle, mais avec un autre moyen. Et la prophétie va jouer un autre rôle, c'est celui d'encourager, d'édifier, de consoler. Alors vous allez me dire, ben on n'a qu'à lire la Bible pour être édifié, consolé, tout ça. Oui, c'est vrai, et c'est ce que nous faisons. Mais dans les moments de situation particulière de notre vie, Dieu a trouvé bon de conserver ce moyen de la prophétie pour pouvoir nous parler directement, spontanément. Et c'est un moyen beaucoup plus efficace quand on a vraiment besoin. Alors, un élément important sur la prophétie, c'est que on le lit par exemple dans 1 Corinthiens 13, nous prophétisons en partie, c'est ce que Paul dit. Nous connaissons en partie ou partiellement, nous prophétisons partiellement. Ça, c'est très important parce que ça nous montre que quoi ? Qu'il manque un bout. Si la prophétie est partielle, si elle est incomplète, il manque un morceau. Et donc, ça, c'est un élément important sur la prophétie, et particulièrement sur la parole de prophétie, c'est qu'elle est incomplète, elle est subjective, elle peut être soumise à l'interprétation. Donc, il faut la soumettre à l'analyse de la foi et de la raison. Dans 1 Thessaloniciens 5, les versets 19 à 21, Paul écrit « Ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Alors là encore, Paul indique clairement que la parole de prophétie peut contenir des choses bonnes et puis des choses qui ne le sont pas. Et ça, vous comprenez bien qu'on ne pourrait jamais dire ça de l'Écriture. On ne pourrait pas dire le livre d'Ésaïe, c'est une prophétie, on va regarder ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. Non, on le prend en entier. Tandis que dans la parole prophétique qui est donnée à nous, chrétiens du Nouveau Testament et à notre époque, qu'on reçoit dans nos cultes, dans nos groupes de maison, etc., et bien cette parole prophétique, elle a cette propriété de contenir des choses bonnes et des choses qui sont moins bonnes. Alors, il n'y a pas que du bon et du pas bon, hein, y a du neutre aussi. Il y a plusieurs coloris. Mais donc, Paul dit clairement aux Thessaloniciens, ne méprisez pas. C'est-à-dire qu'il faut rester à l'écoute. Parce qu'on pourrait avoir deux attitudes un petit peu extrêmes. On pourrait se dire, comme la prophétie, elle ne contient pas que des bonnes choses, et qu'elle contient des fois des mauvaises choses, on ne va pas du tout les écouter. Et Paul dit non, ne méprisez pas les prophéties. Elles ont quelque chose à nous apporter. Et à l'autre extrême, on pourrait se dire, puisque c'est une prophétie, c'est Dieu qui me parle, et je vais tout prendre en bloc. Et bien Paul dit encore là, non, tu reçois une prophétie, il faut l'examiner, c'est-à-dire la regarder avec soin, l'étudier, et tu ne retiens que ce qui est bon. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses mauvaises, ça tu ne les retiens pas, tu retiens ce qui est bon. Nous, on a tout souvent l'habitude de retenir ce qui est mauvais, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si la soupe manque de sel, on va trouver qu'elle n'est pas bonne parce qu'elle manque de sel. Mais on ne va pas se réjouir de tous les légumes qu'elle contient. Et les prophéties, des fois, c'est pareil. Oh là là, tu as vu celui-là comme il a prophétisé de travers. Mais tout n'était pas de travers. Voilà, donc retenir ce qu'il faut, c'est-à-dire ce qui est bon. Dans 1 Corinthiens 14, versets 29 à 38, Paul écrit aux Corinthiens et leur dit « Pendant vos cultes, quand vous prophétisez, que deux ou trois parlent, et puis qu'ils se taisent, et puis les autres jugent, c'est-à-dire discernent ce qui est bon dans ce qu'ils disent. » Donc faire le tri, discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est utile, ce qui est inutile, accepter une partie et rejeter le reste. Voilà donc des caractéristiques de la prophétie du Nouveau Testament. Alors par exemple, plus particulièrement, ça nous encourage à être attentif, à ne pas dire « l'Éternel m'a parlé, voilà ce qu'il va te dire aujourd'hui, ce matin ou ce soir ». Puisque ce que je vais dire, ça peut contenir des bonnes choses, mais des mauvaises choses aussi. Donc c'est pas l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, comme on entend des fois, mais voilà ce que je ressens, voici ce que je vois ou ce que j'ai reçu, et je vous le partage. Et je vous le soumets pour votre interprétation et pour votre discernement. Alors la question qu'on peut se poser, c'est que si la prophétie, la parole de prophétie est partielle, si elle est mélangée de bon et de moins bon, est-ce qu'elle vient vraiment de Dieu ? Eh bien oui. Voilà. Et Paul montre que Dieu peut faire venir une pensée spontanément à l'esprit de quelqu'un. Et la personne qui prophétise, elle va le dire avec ses propres mots, avec ce qu'elle est. La prophétie, elle va être partielle, donc pas complète. Voilà. Et la personne qui n'est pas complète, elle non plus, elle va dire ce qu'elle a reçu avec ses propres mots, avec ses imperfections. Voilà. Mais c'est quand même Dieu qui a envie d'être en relation et de manière très personnelle avec son peuple. Dans 1 Corinthiens 14, versets 30 et 31, donc Paul dit, pour ce qui est des prophètes, donc que deux ou trois parlent, que les autres jugent, et si un autre qui est assis a une révélation, donc une visitation de Dieu, donc une parole de prophétie encore, c'est ça que veut dire le mot révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés ou encouragés. Donc là, on voit vraiment l'intention de Paul de dire, c'est quelque chose qui est imparfait, mais c'est quelque chose que vous pouvez tous faire. Et l'objectif, c'est que tous soient instruits, soient encouragés, soient exhortés. Et alors, il y a un intérêt aussi, c'est que Paul, au verset 23 et 25 d'1 Corinthiens 14, il donne un exemple très intéressant. Il dit, si donc dans une assemblée, tous parlent en langue et qu'il survient des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ? Si on se mettait tous à parler en langue très, très bruyamment et que quelqu'un pas habitués arrivent et vont dire, bon, d'accord. Mais si tous prophétisent et qu'il survient quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Et donc Paul indique que nos cultes, alors il indique que nos cultes doivent avoir du sens, déjà pour les croyants, mais aussi pour les non-croyants, ça c'est une bonne question à se poser. Mais il indique aussi que la prophétie, elle peut avoir du sens, bien sûr pour les croyants, parce que Dieu veut parler à son peuple, mais aussi pour les non-croyants. Et il donne un exemple qu'on a, enfin, qui est réel et qu'on a déjà certainement vécu, hein, c'est que quelqu'un de non-croyant qui vient à nos cultes ou à une réunion maison ou à un rassemblement, il entend une prophétie parce que Dieu veut lui parler à lui aussi, même s'il est non-croyant, et il se dit « mais vraiment Dieu est là ». Et donc c'est intéressant de voir que la parole de prophétie, elle est là non seulement pour les croyants, mais elle est là aussi pour les non-croyants. Et combien c'est important de développer ce don pour pouvoir faire connaître les paroles de Dieu aux non-croyants. Et donc elle est un des signes de la bénédiction de Dieu, de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Elle sert donc de signe pour les croyants et les non-croyants. Alors on peut se poser la question, pourquoi Paul accorde-t-il autant de valeur à la prophétie ? Hein, donc c'est tout le chapitre 14 des Corinthiens. Et on va lire les premiers versets. Recherchez l'amour, aspirez ou désirez fortement les dons spirituels, mais surtout celui de prophétie. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Il les édifie, d'ailleurs il les construit, hein, il leur fait du bien, on pourrait dire, à notre époque. Il les exhorte, il les encourage, il les console. Celui qui parle en langue se construit lui-même. Celui qui prophétise construit l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez tous. C'est très fort, ça. Hein, le désir de Paul, c'est que tous parlent en langue. Alors, je vous fais un petit sondage. Qui c'est qui parle en langue parmi nous ce soir ? Voilà, ben le désir de Paul et le désir de Dieu, c'est que tous ceux qui n'ont pas levé la main puissent parler en langue. Et il dit, mais je désire encore plus que tous vous prophétisiez. Alors, je ne sais pas qui c'est qui a déjà prophétisé ici. Voilà, ben tous ceux qui n'ont pas levé la main, sachez que Dieu désire que vous prophétisiez. Et pourquoi il veut ça ? Parce que la prophétie, la parole de prophétie, elle contribue efficacement à faire grandir l'Église dans la foi. Il dit au verset 12, aspirez aux dons spirituels pour l'édification de l'Église. Hein, et cherchez à en posséder abondamment pour l'édification de l'Église. Et donc, encore une fois, la parole prophétique, elle va révéler de manière spontanée la vision qu'a le Seigneur du cœur de quelqu'un ou d'une situation spécifique. Et ça fait grandir les croyants dans la foi, en les encourageant, en les réconfortant. Qui n'a jamais vécu cela ? Hein, vous êtes dans une situation particulière, par exemple à votre groupe de maison, vous demandez qu'on prie pour vous, et puis dans le moment de prière, il y a une personne ou plusieurs qui vous donne une parole de prophétie, qui va vous encourager, vous édifier, vous faire relever la tête. Et là, on se dit, mais vraiment, Dieu est là. Dieu prend soin de moi. Dieu m'aime. Dieu me parle dans ma situation. Et c'est formidable. Alors, pour terminer cette grande première partie, donc, même si elles doivent être éprouvées et si elles ne doivent pas être reçues comme la parole du Seigneur, entre guillemets, hein, à croire tout cru, au même titre que la Bible, les paroles de prophétie sont l'expression de la présence de Dieu dans la vie quotidienne des croyants et de l'Église, dans les situations de tous les jours. Par elles, Dieu avertit, conduit, annonce et fait connaître sa volonté à propos des êtres humains et des événements qui les concernent. La prophétie, la parole de prophétie, est une expression vivante de la relation personnelle et authentique de Dieu avec son peuple. Alors maintenant, on va parler plus précisément des dons spirituels. Alors, comment obtenir les dons spirituels ? Mais il faut être bien clair, ils ne sont pas accordés en raison de nos mérites, ni en raison du niveau de notre spiritualité, ni en raison de notre niveau d'engagement, et encore moins de notre niveau de maturité. Ce sont des dons. Le mot « don », alors en français, il veut dire plusieurs choses, on le verra après, mais ce sont des dons au sens du mot « cadeau », des faveurs. L'expression vient d'un mot grec dont Norbert nous a parlé la dernière fois, hein, mais qui veut dire « grâce », cadeau, quelque chose qui est offert. Donc c'est un don de grâce. Et Dieu reste totalement souverain en distribuant ses dons aux hommes et aux femmes comme il veut. Alors le mot don en français a deux sens. Il y a le mot cadeau et il y a le mot aptitude ou capacité. Hein, par exemple, on pourrait dire, moi j'ai un collègue à mon travail, il a le don de m'énerver. Vous voyez ? Il y en a un autre, il a le don de me faire rire. Voilà. Donc là, on n'est plus dans le cadeau. On est dans la capacité, dans l'aptitude. Mais dans la Bible, le mot don spirituel n'est jamais utilisé pour dire c'est une aptitude ou une capacité. C'est toujours un cadeau. Alors si je dis j'ai le don de prophétiser, je dis une phrase qui n'a pas tellement de sens. Parce que je n'ai pas l'aptitude à prophétiser. Mais à un moment donné, Dieu fait la grâce, me fait la grâce à moi d'être un canal pour parler à quelqu'un d'autre. Et il fait un don, un cadeau à la personne qui va recevoir cette parole prophétique. Vous voyez ? Alors les gens qui disent, voilà, ils ont une capacité ou un truc, que ce soit de la prophétie, on parlait la dernière fois des miracles et des guérisons, hein, etc. C'est pas tout à fait ça, quoi. C'est toujours un cadeau. Et un cadeau, c'est toujours celui qu'il donne qui décide à qui il donne. C'est toujours Dieu qui décide à qui il va donner un cadeau et par quel moyen. Donc si Dieu me fait la grâce, vous fait la grâce de donner une parole d'encouragement, d'exhortation, de guérison, de sagesse, de miracle, de foi, de discernement des esprits, etc., au travers de vous ou de moi, eh bien, c'est toujours un cadeau que Dieu fait à la personne à qui il veut le donner et à la personne dont il se sert, entre guillemets, comme canal. Alors, une meilleure traduction que don spirituel, c'est peut-être manifestation de l'esprit, c'est-à-dire la manifestation du Saint-Esprit, alors pas forcément en nous, mais au milieu de nous. Et les paroles de guérison, de miracle, de foi, de sagesse, de connaissance sont des manifestations de l'Esprit, des manifestations de Dieu à son peuple. Encore une fois, c'est pour quoi faire ? Ce n'est pas pour faire du spectacle, mais c'est pour montrer son amour, sa tendresse, la préoccupation qu'il a, sa présence, le soin qu'il prend de chacun de ses enfants et de l'ensemble, de l'Église, de la communauté, du troupeau. Donc Dieu donne différents type de don. Alors, dans les dons que Dieu donne, il y a certains dons qui sont des capacités. On trouve ça dans Éphésiens 4, où vous connaissez, il a donné certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, etc. Je ne sais plus dans l'ordre exactement, mais vous connaissez ça, des évangélistes, des docteurs, des pasteurs et enseignants. Bon. Donc ça, c'est des sortes de capacités qu'il donne. C'est des personnes ressources, on pourrait dire, pour utiliser un mot moderne. Voilà. Dans Romains 12, on a une autre liste où les choses sont un petit peu plus mélangées. Il y a celui qui est généreux. Il est parlé de celui qui est généreux, donc c'est le don de la générosité. Il y a celui qui préside, donc c'est le don de conduire la réunion ou l'église. Il y a celui qui prophétise, on est en plein dans notre sujet, etc. etc. Donc cette liste, elle est un petit peu plus large. Il y a dans 1 Corinthiens 12 les 9 dons qu'on a l'habitude d'appeler les dons. Pierre, lui, dans la première épître, lui, Pierre, il est beaucoup plus ramassé quand il parle, beaucoup plus synthétique, donc des fois on comprend moins bien, enfin, il développe moins, mais là c'est clair, il dit « Comme de bons dispensateurs ou intendants des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles ou les communications de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, un service, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Donc Pierre fait deux grandes catégories. Il y a ceux qui parlent et ceux qui servent. Il faut le prendre positivement. C'est que là, il veut décrire. Ce n'est pas ceux qui parlent et puis ceux qui servent. Ça pourrait avoir un sens péjoratif. Ceux qui parlent et puis ceux qui travaillent. Ce n'est pas ça. C'est que lui, il considère que dans l'Église, il catégorise les différentes choses qui se font dans l'Église de deux manières. Il dit la raison d'être de l'Église, c'est de parler, c'est-à-dire d'annoncer que Jésus est le Christ, et puis de servir les croyants et les non-croyants qui en ont besoin. Donc annoncer, c'est par amour qu'on annonce la bonne nouvelle aux autres, et servir, c'est aussi par amour qu'on va servir les autres parce qu'on a compris qu'ils étaient nos frères, que Dieu les aimait, même si nous, on ne les aimait pas encore. Enfin, je brode. Voilà. Donc Pierre dit, première chose importante, chacun a reçu quelque chose. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc ça, c'est point primordial. Donc chacun a reçu quelque chose de Dieu pour travailler dans la raison d'être de l'Église, soit dans annoncer, soit dans servir. Et que chacun le mette à profit comme un bon intendant, c'est-à-dire l'offrir aux autres, le faire fructifier, s'en servir, s'exercer, progresser. Alors quand on met à bout à bout toutes les listes des dons, des communications du Saint-Esprit que Dieu fait à son peuple. Donc j'ai cité Romains 12, Éphésiens 4, Corinthiens 12, ça c'est les trois chapitres où on a les plus grandes listes, mais aussi dans les autres épîtres, on trouve d'autres choses qui sont réparties, pas sous forme de listes. On obtient une trentaine de dons de la part de Dieu différents. Et alors, il y a un livre qui décrit bien ces 30 et quelques dons. C'est ce livre, là, Découvrez vos dons, qui est très intéressant et qui parle de tous ces dons-là. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas ce livre, je vous invite à vous le procurer. Il est très, très chouette. En plus, il y a un petit questionnaire qui vous permet de savoir si vous avez des dons. Et vous en avez. Voilà. Donc, ça, c'est pour dire que ce qui est important, c'est qu'effectivement, ce qu'on appelle les dons spirituels, c'est un mauvais terme parce que on a tendance à dire le don spirituel, c'est la prophétie, le parler en langue, le train. Mais c'est trop réducteur. On voit dans la Bible que Dieu donne une trentaine au minimum de dons différents qui sont capables d'être donnés à tous et à toutes. Et c'est important de les connaître et de ne pas se restreindre qu'à quelques-uns. Alors nous, ce soir, on parle du don de prophétie. De la parole de prophétie, donc on va revenir à ça. Donc, on a vu tout à l'heure que dans l'Ancien Testament, il y avait deux sortes de prophètes. Il y avait ce que j'ai appelé les grands, et puis les prophètes de tous les jours. Et bien, dans le Nouveau Testament, on va avoir la même chose. Dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens 4, il est dit qu'il y a des hommes ressources, des personnes ressources, qui sont des ministères de prophètes. On les appelle comme ça. Et ça, c'est différent de la personne qui donne une parole de prophétie ou un don de prophétie. Donc on retrouve un petit peu la même chose qu'à l'Ancien Testament. Il y a des ministères de prophètes et il y a des gens, et vous avez bien compris que c'est toute personne du peuple de Dieu qui est appelée à donner des paroles de prophétie. Alors la différence, c'est quoi ? C'est que le ministère de prophète, quel va être son rôle dans le Nouveau Testament ? C'est de révéler la pensée de Dieu concernant les questions, on pourrait dire, complexes de la direction de l'Église, ou ce qui est essentiel à une saine croissance, au développement d'une nouvelle Église, ou à tout ce qui est ce qui concerne les choses inter-Église, les unions d'Église, les mouvements d'Église, les réseaux, etc. On voit aussi dans le Nouveau Testament que la prédication, enfin la proclamation d'événements futurs est réservé au ministère de prophètes. Voilà. Les dons de prophétie, qui concernent donc, c'est un autre étage, c'est l'étage qui nous concerne nous, j'allais dire, il nous concerne nous parce qu'il concerne tous les croyants et la vie de tous les jours, les situations personnelles. Les ministères de prophètes, il y en a quelques-uns. Voilà. En France, il y en a quelques-uns. J'imagine que Dieu en donne en fonction des besoins. Par contre, les gens qui peuvent exercer le don de prophétie, ben dans cette salle, il y en a une cinquantaine. Voilà. J'insiste lourdement, mais bon, voilà. Alors, donc, réduire les dons de Dieu à la liste des 9 dons de 1 Corinthiens 12 n'est pas juste. Alors, on va trouver un autre passage, Éphésiens 5, 18, que vous connaissez bien. Hein, il dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Et puis après, il dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant Dieu de tout votre cœur. » Voilà. Et là, on a donc 3 termes qu'on pourrait prendre comme des termes musicaux. Hein, des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Sauf qu'on a un problème avec le dernier, cantique spirituel. Alors, psaumes et hymnes, ça, c'est des noms de la liturgie de l'époque. Hein, c'était des sortes de chants. Voilà, chez nous aussi, on dit on a des cantiques, on a des. À une époque, on disait encore des hymnes, des chœurs. Hein, voilà. Et les cantiques spirituels, ça, c'est une traduction. Mais le mot qui dit cantique, donc ça veut bien dire un chant, et spirituel, c'est le même mot qui est utilisé pour dire manifestation de l'esprit dans 1 Corinthiens 12. Et donc, on imagine bien que Paul va dire aux chrétiens d'Éphèse, entretenez-vous quand vous chantez à Dieu, célébrez de tout votre cœur avec des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Il ne va pas leur dire de chanter avec des cantiques profanes. Hein. Vous imaginez bien, on ne va pas chanter Johnny Hallyday. Hein. Non. Donc, on a un problème sur la traduction. On a un problème sur la traduction parce que ce mot cantique spirituel, on pourrait de manière très très juste le traduire par des chants de l'esprit, hein, où nous on a l'habitude de dire des chants en langue. Et donc Paul dit aux Éphésiens, en tout cas c'est ma théorie, entretenez-vous par des psaumes, donc les psaumes c'était les passages chantés de l'époque, des hymnes c'était les chants nouveaux comme on a nous, hein, ça on pourrait dire c'est les hymnes, et les chants spirituels c'est les chants en langue comme nous le pratiquons à l'Église. Alors, comment pratiquer les dons? On l'a vu la semaine dernière, on a déjà reçu le Saint-Esprit à la conversion, on le reçoit à nouveau et de manière nouvelle dans différentes étapes de notre vie. Oui? Ah voilà, merci. Ouais. Donc la traduction Sommer, qui est une traduction récente et qui a pour but de faire comprendre le message, elle dit donc, je le redis pour l'enregistrement, des chants inspirés par l'esprit. Des cantiques inspirés par l'esprit. Voilà. Donc recevoir, pratiquer les dons. Donc on a parlé la dernière fois hein, du baptême. Et vous savez, donc Norbert nous faisait remarquer la semaine dernière que le baptême du Saint-Esprit, l'expression elle-même dans la Bible, n'existe que 7 fois, enfin dans le Nouveau Testament. Et 4 fois, c'est dans le début de chacun des évangiles, quand Jean-Baptiste dit « Voilà Jésus, et c'est lui qui vous baptisera de Saint-Esprit ». Que doit-on comprendre? Jean-Baptiste, c'est le dernier des prophètes hein, de l'Ancien Testament. Il fait la charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et que veut dire Jean-Baptiste? Alors moi, j'ai une proposition d'explication à vous donner. Quand il dit « il vous baptisera », c'est une image, c'est une comparaison. Et ça va nous parler du changement qu'il y a avec l'arrivée de Jésus. Dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un recevait le Saint-Esprit, le mot qui était utilisé, c'était le mot « onction ». C'est-à-dire, on lui versait sur la tête quelques petites gouttes, ou à la limite, toute une petite fiole, hein. Et ça coulait, voilà, c'était l'onction. Donc on recevait une petite quantité du Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, c'est la prophétie de Jean-Baptiste, lui, il vous baptisera, c'est-à-dire il vous plongera, il vous immergera dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire que vous ne recevez pas une petite quantité du Saint-Esprit sur la tête, mais on vous prend et on vous plonge complètement dans le Saint-Esprit. Je vais prendre une image avec la peinture. Quand on fait de la peinture, dans l'Ancien Testament, l'onction, c'est qu'on prend de la peinture sur le pinceau et on vous en met un petit peu sur le front, un petit coup de pinceau de Saint-Esprit. Là, dans le Nouveau Testament, on te prend et on te jette dans le pot de peinture et la peinture, elle te couvre tout entier, jusqu'au repli des orteils, hein, partout, partout, partout. Et donc, c'est pour donner une notion de quantité, de présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu était donné petitement. Dans le Nouveau Testament, on l'a. C'est même plus qu'on l'a, c'est qu'on est plongé dedans. Voilà. C'est magnifique, non ? Ce qu'on apprend donc avec ça, c'est que le Saint-Esprit est disponible. Donc son objectif, c'est d'être au service des autres et de nous qualifier pour nous donner la capacité de construire des relations d'amour. Vous connaissez ce verset dans Romains 5, 1, qui dit que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Vous connaissez ce verset de Galates qui dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, etc. Donc on voit que le but du Saint-Esprit, entre autres, c'est de nous communiquer l'amour et de nous communiquer la capacité de transmettre cet amour. Et la parole de prophétie, c'est vraiment une capacité de transmettre cet amour en montrant que Dieu est attentif, prend soin de nous, nous encourage, nous exhorte, nous console. Alors comment pratiquer les dons ? Paul le dit, il faut les désirer, y aspirer, les rechercher ardemment dans d'autres traductions. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc qui va arriver comme ça dans notre vie. Il y a vraiment une démarche intérieure de se mettre devant Dieu et de dire à Dieu, ben, je veux les chercher, je veux l'avoir, ce don de parler en langue. Je ne l'ai pas, je vois que les autres l'ont et ça me donne vraiment envie et moi je ne l'ai pas. Seigneur, donne-le-moi. Il y a une aspiration. Alors 1 Corinthiens, c'est une lettre. Il faut faire attention à ça aussi. C'est une lettre que Paul a écrite pour remettre l'église de Corinthe en ordre. Il y avait tout un tas de désordres dans cette église. Paul dit que c'est quand même l'église de Jésus-Christ. Mais il écrit une lettre pour dire voilà ce qu'il faut faire. Cette lettre, on pourrait dire, c'est une sorte d'engueulade. Hein ? Vous me permettez l'expression, on est entre nous. Et donc, quand Paul explique les manifestations du Saint-Esprit dans le chapitre 12 et dans le chapitre 14, il n'est pas en train de leur faire un exposé de A à Z bien construit sur les dons spirituels, voilà ce que c'est, comment il faut faire, etc. Non, il tente de rétablir l'ordre, le bon usage des choses. Il ne dit pas voilà ce que les charismes sont, mais il dit vous faites tout de travers, il faut vraiment remettre de l'ordre dans tout ça. Et vous comprenez la différence ? C'est qu'il ne va pas expliquer ce que c'est que les dons spirituels, mais il explique aux Corinthiens qu'ils sont en train de faire des erreurs avec les dons spirituels. Et donc c'est très intéressant pour nous, parce qu'on voit comment Paul reprenait les églises, mais aussi on apprend qu'avec les dons spirituels, on peut faire des erreurs, comme les Corinthiens. Voilà, donc c'est intéressant de voir quelles erreurs il ne faut pas commettre avec ça. Donc les Corinthiens, d'après ce qu'on comprend, c'est qu'ils aimaient parler en langue plus que tout, et qu'ils en éprouvaient de la gloriole. Donc on imagine qu'ils devaient être montés sur leur chaise à crier en langue au plus fort. C'est celui qui criait le plus fort. Et donc Paul les reprend en leur disant « Mais ça ne sert à rien de vous parler les uns aux autres en langue. Ça n'édifie pas, ça ne construit rien, puisque vous ne comprenez pas ce que vous dites. Et l'autre, il ne comprend pas non plus. Hein, ce qui édifie, c'est de communiquer les uns les autres avec son intelligence. Hein, il dit « Je préfère donner 5 paroles avec mon intelligence que 10 000 en langue. » Hein, il redresse les choses, il rétablit l'ordre. À Corinthe, on comprend que quand ils prophétisaient, c'était à celui qui parlait le plus fort et le plus longtemps. C'est pour ça que Paul leur dit, mais si vous prophétisez bon, que 2 ou 3 parlent, et puis après ils se taisent, vous arrêtez une fois que vous avez fini, vous ne continuez pas. On imagine, ça devait être un peu la sainte pagaille. Voilà, et puis il dit, puis vous vous taisez, puis les autres ils écoutent, et puis ils jugent. Hein ? Et puis il dit après, c'est aux anciens qui doivent veiller à remettre de l'ordre dans vos cultes. Donc au travers de cette sorte d'engueulade, on comprend des choses. Ce n'est pas un enseignement direct. Donc on comprend, comme on l'a lu tout à l'heure, que Paul veut, désire, que tous parlent en langue. À tel point, à un moment, il dit « je parle en langue plus que vous ». Ce n'était pas un vantard, Paul, hein, il ne disait pas ça pour faire la gloriole comme eux. Il dit ça parce que c'était vraiment important et que ça soutenait sa vie personnelle. Et on l'a lu, il dit « mais surtout, je veux que vous prophétisiez ». Alors moi, je crois que j'en parle un petit peu ce soir. Pourquoi ? Parce que je crois que le parler en langue, c'est vraiment un bon objectif de départ. Quand on veut démarrer dans les manifestations de l'esprit. On l'a dit la dernière fois, hein, ce n'est pas forcément comme ça que ça commence, mais c'est un bon départ, quelque chose à rechercher pour débuter. Alors, qu'est-ce que ça fait de parler en langue? Eh bien, ça fait du bien. Quand on ne sait pas quoi prier, ça fait du bien, parce que notre prière, elle continue. Quand on ne sait pas quoi demander, eh bien, ça fait du bien, parce que notre prière, elle continue. On prie en langue, et Paul nous assure qu'on dit des choses merveilleuses et des louanges extraordinaires, même si on ne les comprend pas. Alors, qui c'est qui parle quand je parle en langue? Ben, c'est moi. C'est moi qui ouvre la bouche, c'est mon cerveau qui donne l'ordre à mes muscles d'ouvrir la bouche, aux poumons d'envoyer l'air, aux larynx de faire je sais pas quoi. Hein. Mais c'est moi qui parle. C'est pas une marionnette, je ne deviens pas une marionnette, donc quelqu'un tire les fils, le Saint-Esprit. Donc quand je parle en langue, c'est comme quand je parle français ou espagnol, sauf que le Saint-Esprit me donne de parler des mots nouveaux. Ce n'est pas moi qui les invente. C'est des mots que je ne comprends pas. Donc il faut un peu de foi pour se dire, ben oui, je suis en train de dire des choses merveilleuses, puisque la Bible dit. Moi, je n'y comprends rien, mais la Bible dit que c'est des choses merveilleuses. C'est des louanges à Dieu extraordinaires. Et il faut accepter un petit grain de folie. Non, ça c'est pour la blague. Il faut accepter, donc dans la foi, il faut accepter de ne pas avoir le contrôle sur tout. Voilà. Donc ça fait du bien. Paul dit aussi, et ça je pense ça intéresse tous ceux qui parlent en langue déjà, de demander le don d'interprétation quand on parle en langue, dans l'assemblée. Parce qu'il dit ça sert et ça revient au don de prophétie. Dans notre pratique, on n'a pas beaucoup des parlers en langue retentissants dans l'assemblée. Hein, je sais pas, enfin, ça arrive par exemple quand Nicolas Thébault est là. Mais nous, souvent, on a plus un chant en langue d'assemblée. Et vous avez remarqué qu'après le chant en langue, souvent, il y a des paroles prophétiques. Alors, on ne va pas couper les cheveux en quatre et faire des réunions pour savoir si ce sont des interprétations ou si c'est des paroles prophétiques. Peu importe, puisque Paul dit que ça revient au même. Hein, ce qui compte, c'est que c'est un moyen aussi par lequel on va pouvoir recevoir la parole prophétique. Donc c'est pour ça que je pense que c'est intéressant, pour ceux qui veulent démarrer, de commencer par rechercher le parler en langue. Alors quand je parle en langue, c'est moi qui décide que je vais parler et le Saint-Esprit me donne d'autres mots. Pour la prophétie, c'est autre chose. Comment ça marche? Eh bien, ça peut être une idée qui vous vient à la tête, ça peut être un verset dont vous vous rappelez. Donc c'est la mémoire qui joue. Ça peut être une image, une sorte de rêve. Comme quand on rêve, on voit des images. Là, c'est pareil, sauf qu'on est éveillé. Ça peut être une parole qu'on entend, un ressenti en nous. Ça peut être de l'ordre de l'intuition, de l'ordre de l'imagination. Des fois, c'est des mots ou c'est de l'ordre de la pensée. Voilà. Tout ça, ce sont les moyens par lesquels Dieu va nous faire ressentir, va nous communiquer la parole de prophétie. Et ce qui est important dans tout ça, c'est de se rendre disponible à l'esprit pour le bien de l'assemblée, pour le bien du groupe de prière, pour le bien de la personne avec qui je parle ou je prie. Et c'est Dieu qui donne à qui il veut, comme il veut, à chacun. Donc on a vu qu'il désire que nous les demandions. Dieu ne s'impose pas. Dieu ne va pas vous donner un don si vous ne voulez pas le recevoir. Il ne va pas vous donner une parole prophétique ou un don de guérison si vous ne voulez pas le recevoir. Si vous y aspirez, si vous lui demandez, là peut-être. Voilà, donc l'invitation de Paul, c'est rechercher les dons les meilleurs, aspirer, désirer les fortement. Alors quand on les cherche pour la première fois, la Bible parle d'une pratique, d'un geste qui accompagne cette recherche. C'est l'imposition des mains. Alors, on ne va pas prendre le temps de lire ça, mais on a beaucoup de versets qui nous parlent de ça dans 2 Timothée 1, 6, le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Dans Actes 19, 6, il parle aussi de l'imposition des mains. Actes 18, 17, 1 Timothée 4, 14, 15, là c'est l'imposition des mains des anciens de l'Église. Hein, donc c'est un geste qui accompagne, mais ce n'est pas une condition non plus obligatoire. Et tout à l'heure, pour ceux qui auront envie, eh bien, on pourra demander aux anciens d'imposer les mains pour ceux qui ont envie de recevoir le don de la manifestation du Saint-Esprit. Un point important, c'est que le Saint-Esprit, lorsqu'il nous donne un don, particulièrement le don de prophétie, il ne va pas donc nous forcer et il ne va pas nous forcer non plus à avoir une attitude ou des émotions particulières. Ce que je veux dire par là, c'est que jamais le Saint-Esprit va nous exciter, nous faire trembler, pleurer, crier. Non, ça c'est des manifestations de notre corps, de nos émotions, mais pas du Saint-Esprit. Paul dit « Dieu est un Dieu d'ordre, pas de désordre ». Il dit aussi « L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes ». C'est 1 Corinthiens 14, 32. Donc ça veut dire qu'on garde la maîtrise de qui on est, même quand on reçoit un don de prophétie. Et ça ne rajoute rien. Ce n'est pas parce que quelqu'un va donner une prophétie en criant qu'elle aura plus d'impact, ou en pleurant qu'elle va toucher plus quelqu'un. Non, j'aurais même plutôt tendance à dire que ça retire quelque chose à la parole prophétique, parce que ça attire l'attention sur la personne qui donne plutôt que sur le message qu'elle va donner. Alors je dis ça, mais parfois on ne se maîtrise pas non plus. Et moi, à titre personnel, ça m'est arrivé de recevoir une fois une parole et d'avoir tout d'un coup le cœur qui se mettait à battre, à ne plus pouvoir parler, à parler en chevrotant comme une vieille dame, et d'être ému, etc. quoi. Voilà. Donc, chacun de nous peut recevoir des dons de prophétie, des paroles de prophétie, mais ça ne fait pas de nous des prophètes. Les prophètes dans le Nouveau Testament, il y en a, mais c'est un autre niveau, et peu de nous le sont. Donc on a vu, ce n'est pas une aptitude, mais on peut quand même progresser. On devient quelque part donc une sorte de canal en se rendant disponible à Dieu, et on peut personnellement, avec l'usage, devenir davantage sensible. Parce que Dieu, il va nous parler d'une certaine manière, et puis d'une autre, et puis on peut progresser aussi dans des paroles prophétiques qui vont être de plus en plus précises, par exemple, ou qui vont s'orienter vers la parole de connaissance ou la parole de sagesse. Voilà. Donc, je reçois des dons de prophétie ou de guérison, mais donc je ne suis pas pour autant ni un prophète ni un guérisseur. Je reste un disciple de Jésus qui désire le servir et les laisser se manifester au milieu de son peuple. Alors, pour finir, quelques conseils. Donc, à celui qui donne une prophétie, la préparation personnelle. Et oui, préparation personnelle, si vous voulez donner des prophéties. Une des premières préparations, c'est de consacrer du temps à l'étude de la Bible, à sa mémorisation. Le Saint-Esprit puisera toujours dans votre connaissance. Si vous voulez que le Saint-Esprit vous rappelle un verset au bon moment, il faut que vous l'ayez appris. Il ne va pas vous rappeler un truc que vous n'avez jamais appris. Un autre élément, c'est de se préparer à intervenir en public. Si vous souhaitez donner un don de prophétie, forcément, il faudra que vous le disiez aux autres. Vous n'allez pas le recevoir pour le garder pour vous. Et vous dire, chic, j'ai reçu un don de prophétie, et puis je ne le dis pas. Non. Si tu reçois une parole de Dieu, une parole de prophétie, il ne faut pas te défiler, il faut la donner. Donc il faut te préparer aussi à parler en public. Et puis, un troisième élément, c'est travailler sa consécration, en particulier celle de la bouche, des paroles. Samedi dernier, au culte, il y avait un enseignement sur Jacques 3, versets 11 à 12, qui disait, Jacques qui dit, « De la même bouche ne peuvent pas sortir la bénédiction et la malédiction. » Donc, à quoi sert ta bouche? Est-ce qu'elle sert à dire tout et n'importe quoi? Ou est-ce que tu vas la consacrer pour qu'elle puisse servir, quand Dieu le voudra, à donner des paroles de prophétie? Un autre élément de préparation personnelle, c'est d'être bien clair que ce charisme ne nous est pas donné pour notre propre gloire ou notre satisfaction ou penser que ça y est, on est enfin arrivé à un niveau spirituel. Non, il est donné pour le bien de tous, de celui qui va le recevoir. On a vu tout à l'heure que c'était un don qui était incomplet, partiel. Donc ça va arriver que vous vous trompiez. vous disiez n'importe quoi. Hein ? Il y aura une chose de bonne dans tout ce que vous aurez dit, mais tout le reste sera jeté à la poubelle. Mais ce n'est pas parce que vous aurez fait ça que vous allez devenir un mauvais chrétien ou un faux prophète. Non, ça arrive à tout le monde. C'est juste que vous êtes trompé cette fois-ci. Et puis voilà. On oublie et on se remet à la disposition de Dieu. Et Dieu va nous apprendre, nous faire grandir. Voilà un autre élément qui est important, c'est d'exercer le contrôle de la parole de prophétie, que ce soit quand on commence ou quand on continue, sous le contrôle de quelqu'un, sous le contrôle des anciens, des pasteurs. C'est leur job, ils sont là pour ça. La prophétie est partielle, elle est incomplète, elle est mélangée. Et il faut accepter de pouvoir se faire reprendre, d'être redevable. C'est comme ça qu'on progresse. On dit que quand on fait du ski, on progresse que quand on tombe. Voilà. Bon, la prophétie, on n'a pas besoin de tomber très bas. Hein. Voilà. Mais c'est important d'exercer la prophétie sous le contrôle de quelqu'un. Alors, quand on a reçu quelque chose et que c'est le moment de le donner, eh ben déjà, si vous recevez une prédiction pour un événement futur, ben déjà, vous pouvez vous dire que vous êtes à côté de la plaque. Hein. Ou alors, vous allez en parler au pasteur, mais... Voilà, on a vu que ça, c'était réservé au ministère de prophètes. Ce n'est pas à la parole de prophétie. Ça peut être une parole de sagesse, une parole de connaissance, hein, mais c'est un autre niveau. Lorsque vous avez reçu quelque chose, avant de parler, réfléchissez, examinez ce que vous avez à dire. Est-ce que c'est conforme à l'enseignement de la Bible ? Si ce n'est pas conforme, vous êtes en train de dire une bêtise, donc ce n'est pas la peine de la dire. Est-ce que c'est un truc bizarre ? Est-ce que c'est une de vos lubies ? Une idée farfelue ? Est-ce que c'est conforme à la foi générale ? Si ce n'est pas le cas, ben, c'est pas grave, vous passez à autre chose. Hein ? Donc réfléchissez aussi à la manière de le dire. Des fois, on entend que les gens y répètent 3-4 fois la même chose. Hein ? Une fois, ça suffit. Tout le monde est assez intelligent pour le comprendre la première fois. Hein ? Donc c'est important de faire attention à ça. Il faut regarder aussi est-ce qu'on a le droit de parler au moment où on va parler. Quand je dis le droit, ça peut être la politesse. Hein, l'exemple frappant, c'est quand vous êtes en vacances, vous allez dans une autre église et vous avez l'impression que vous recevez un don. Mais peut-être dans cette église, ils n'expriment pas les dons comme chez nous. Peut-être qu'ils préfèrent que les gens ne le fassent pas pendant le culte, qu'ils disent... Hein. Donc il y a des us et des coutumes, on pourrait dire, dans chaque église. Et c'est important de ne pas arriver en disant « Ah, j'ai reçu une parole de prophétie pour vous, voilà ce que vous devez faire. Hein » Non. Il y a la... On reste dans une relation de politesse, d'amour, de communion fraternelle. Puis je vais vous dire, si vous êtes à l'extérieur, hein, à mon avis, c'est rare que le Saint-Esprit vous donne une parole dans ce cadre-là. Si dans une réunion, même dans notre église, cette fois-ci, vous n'êtes pas les organisateurs, c'est-à-dire le président, le responsable de la louange ou tout ça, ou du groupe de maison, c'est à mon avis rare que le Saint-Esprit vous donne une parole prophétique de direction pour ce moment-là. En général, il va la donner à celui qui préside. Hein, en général. Bon, s'il est bouché, je ne sais pas comment ça se passe, mais en général, ça se passe plutôt bien. Hein. Donc n'imaginez pas que vous allez prendre, avec la parole de prophétie, vous allez prendre un rôle que vous n'avez pas. Restez dans votre rôle. La parole de prophétie, elle est là pour édifier, donc construire, faire du bien, hein, exhorter, encourager et consoler. Si c'est pour diriger la réunion, ben vous êtes à côté des clous, là. C'est pas la peine. Voilà, on l'a dit tout à l'heure, hein, garder le contrôle de son corps, attendre le moment favorable. Bon, dans notre culte, on gère ça correctement, il me semble. Hein, c'est qu'il y a plusieurs moments où les gens peuvent donner les paroles qu'ils ont reçues. Ce n'est pas en plein milieu du chant ou en plein milieu de la prédication ou tout ça. Hein. C'est, les choses se font dans l'ordre. Voilà, on reste poli avec ceux qui ont préparé. Lorsque vous donnez le message que vous avez reçu aussi... Ben, c'est important de ne pas mélanger le parler en langue, un moment de prière et puis la parole prophétique, parce que les gens ils n'y comprennent rien. Ils disent qu'est-ce qu'il fait ? Il prophétise ou il prie ou il parle en langue ? Hein ? Une chose à la fois, hein ? Ça sera bien plus clair. Si vous êtes hésitant, vous avez reçu quelque chose, soyez à l'écoute. Souvent, surtout quand on démarre, le Saint-Esprit est un bon pédagogue avec nous. Il nous prend par la main, il nous donne quelque chose, on reçoit quelque chose, une parole de prophétie. Et puis on va l'entendre d'autres personnes dans l'assemblée le dire. Hein ? Et ça, c'est tout simplement que le Saint-Esprit nous dit, bah, tu vois, je te donne quelque chose, tu exerces quelque chose, et tu n'es pas le seul à l'avoir reçu. Hein, donc c'est plutôt bon signe. C'est qu'on n'est pas en train d'inventer. Voilà, donc le Saint-Esprit prend soin de nous et il nous fait progresser aussi. Donc si vous êtes hésitant, mais vous ne dites pas ce que vous avez reçu, puis vous allez voir le pasteur ou le responsable du groupe de prière à la fin, puis vous lui en parlez. Et puis il saura vous dire, voilà. Alors maintenant, pour finir, j'étais un petit peu trop long, désolé. Pour celui maintenant qui va recevoir la parole prophétique, quelques conseils. Donc vous êtes à une réunion, vous demandez qu'on prie pour vous ou pas, vous êtes au culte, et tout d'un coup, vous avez l'impression qu'il y a une parole prophétique qui est donnée et qui s'adresse à vous. Donc déjà, la question, c'est est-ce qu'elle s'adresse à vous ? Hein ? Bah, si vous ne vous sentez pas concerné, c'est qu'elle ne s'adresse pas à vous. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Hein ? Merci, monsieur Lapalisse. Non, ce qui est important, c'est quand vous pensez avoir reçu une parole, c'est de toujours la vérifier par rapport à la Bible et de demander conseil à d'autres sur ce point-là. Est-ce que la parole que j'ai reçue, elle est conforme à la Bible ? Alors, encore une fois, si vous ne savez pas, plutôt que de demander à votre voisin qui n'en saura pas plus, demandez aux anciens ou à votre pasteur ou à votre groupe de maison, au responsable du groupe de maison. Eux, ils sont là pour ça. Dieu leur donne, c'est leur job, il leur donne le discernement, la sagesse pour ça. Donc autant s'en servir. Et donc si vous posez des questions au sujet d'une prophétie que vous avez reçue, eh bien voilà, allez parler à votre pasteur et puis regardez avec lui ou tout seul, est-ce que c'est conforme à la Bible ? Si ce n'est pas conforme, eh bien vous l'abandonnez de suite. Ça fait partie des choses à examiner et qu'on ne retient pas, puisqu'on a dit qu'on retenait que ce qui était bon. Et ce qui est bon, c'est forcément ce qui est conforme à la Bible. Rappelez-vous que la prophétie, elle est incomplète, imparfaite, qu'elle n'est qu'une partie. Et de ça, il découle une chose très importante, c'est qu'il ne faut jamais s'appuyer sur une prophétie pour prendre une décision importante. Vous êtes en train de choisir, vous avez une décision importante à prendre. Ben, ce n'est pas que la parole prophétique qui va vous donner la bonne direction. La parole prophétique, elle va vous donner la confirmation de la bonne direction. Donc si vous avez une importante décision à prendre et vous ne savez pas dans quelle voie vous devez vous diriger, au lieu de rechercher une parole prophétique, recherchez la pensée du Seigneur dans votre prière. Et non pas une direction auprès de ceux qui ont la capacité de donner des paroles de prophétie. Donc demandez à Dieu, recherchez dans la Bible s'il n'y a pas une contradiction entre certaines possibilités et la vie de foi que Dieu nous demande. Demandez conseil aux responsables de l'Église pour vos décisions. Demandez conseil à votre conjoint si vous êtes marié. Il va être forcément le premier concerné. À vos parents si vous êtes encore sous leur responsabilité. Hein, et puis vous connaissez les critères hein, pour prendre une bonne décision, c'est rechercher donc le conseil de Dieu, la paix intérieure, les circonstances, aidez-moi, la parole, voilà. Et puis peut-être que dans tout ça, Dieu vous fera la grâce, en plus de tous ces éléments de confirmation, de vous donner une parole prophétique. C'est un élément, si vous la recevez, c'est un élément parmi d'autres, ce n'est jamais le seul. Et comme la prophétie, elle est impartielle et incomplète, ben ça va être le dernier niveau de choix. Voilà. Donc il vaut mieux, en clair, écouter ses parents, son conjoint, son pasteur et sa Bible et son Dieu avant d'écouter la parole prophétique. Mais la parole prophétique, dans son rôle d'encouragement, eh ben, elle va arriver au bon moment pour donner la confirmation. Voilà, j'en ai terminé. J'étais un petit peu plus long que prévu, je suis désolé. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse peut-être prier. Peut-être, je sais pas, est-ce qu'il y a des questions, des réflexions, des commentaires ? Oui ? Alors, les prophéties dans le futur, dans l'Ancien Testament, les prophètes de l'Ancien Testament, ils donnaient des prophéties du futur. Particulièrement, ils étaient là pour annoncer la venue de Jésus qui allait se passer des siècles après eux. Dans le Nouveau Testament, les prophètes du Nouveau Testament et la parole de prophétie que tous les croyants peuvent exercer ne sont pas là pour donner des choses du futur, puisque Jésus, il n'est pas dans le futur, il est en arrière. Hein ? Voilà, donc la parole prophétique, elle n'est pas là pour annoncer des choses du futur. Voilà. En général. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, Patricia ? Alors, la parole de connaissance, c'est une, on pourrait dire, c'est une sorte de parole de prophétie. Donc, c'est un message que Dieu donne à l'assemblée ou à une personne ou à un groupe au travers d'un messager qui va le recevoir. Et ce qu'on appelle la parole de connaissance, c'est la connaissance d'une chose qui est inconnue. Alors, on a un très bel exemple avec Jésus. C'est par exemple Jésus qui est avec quelqu'un, hein, par exemple avec les pharisiens. Et les pharisiens sont en train de faire du bullshit avec Jésus. Hein. Ils leur racontent des choses, mais à l'intérieur d'eux, ils pensent autre chose. Et Jésus a la connaissance de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Hein, ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est quand, par exemple, tu pries avec quelqu'un et que le Saint-Esprit te montre que cette personne, elle a vécu quelque chose dans son enfance qui l'a traumatisé. Hein. Je prends un exemple comme ça. Mais voilà, ça c'est une parole de connaissance. C'est que Dieu nous donne la connaissance de quelque chose qu'on ne sait pas, voilà, mais qui va aider à soit encourager la personne, soit débloquer la situation, soit etc. Alors le discernement, c'est plus dans le don, c'est plus pour discerner les esprits. C'est-à-dire dans une situation particulière, discerner est-ce qu'il y a un esprit mauvais qui sera en train de faire son job là et qu'il faudrait, tu vois, c'est plus ça. Quand Paul dit une parole de discernement, c'est plus dans ce domaine-là, de savoir ce qu'il y a un esprit mauvais qu'il faut chasser. Et donc on lui dit, bah, tu t'en vas, et puis il s'en va. Voilà. Hein ? Mais c'est, tu as raison, en quelque sorte, la parole de discernement, c'est une parole de connaissance dans le domaine du monde des esprits, on pourrait dire. Oui ? Ah, d'éviter, oui. Tu sais, il dit le proverbe qui dit vaut mieux habiter dans le grenier qu'avec une femme querelleuse. Une personne, pardon. Oui. Ouais. Oui, ben après, ça peut être. Je veux dire, vous avez tous compris que Dieu veut parler à son peuple. Hein ? À la fois des grandes choses qui concernent l'humanité, le salut, etc., à la fois des choses de la vie courante. Et après, ce qui est important, c'est que Dieu va nous faire connaître des situations. Par exemple, si tu travailles avec quelqu'un et que la personne est en train de monter un coup contre toi, hein, ben ça arrive que Dieu nous le fasse connaître à l'avance. Ça peut être par une parole prophétique, un don de connaissance, ou une intuition que tu as, hein, ou des éléments que tu n'aurais pas remarqué dans la vie courante, puis tout d'un coup, tu vas les remarquer, hein, parce que Dieu prend soin de nous, prend soin de son peuple. Ça répond à ta question ? Oui ? Oui. Eh bien, alléluia, c'est super, ouais. La difficulté, c'est que quand on reçoit quelque chose comme ça, ça peut énormément nous déstabiliser. Hein ? Parce que on te dit dans 3 ans, il va t'arriver ça. Et peut-être c'est pas du tout ton chemin de vie sur lequel tu avais pensé. Hein ? Alors dans Ézéchiel, je crois que c'est dans Ézéchiel, à l'époque d'Ézéchiel, il y avait beaucoup de faux prophètes. Et donc, Ézéchiel avait trouvé la bonne solution. Il a dit, on sait qu'une parole de prophétie est vraie, donc une parole qui donne dans le futur, lorsqu'elle s'accomplit. Voilà. Donc, mais tu as raison de le dire, ça peut arriver. Hein, et tout à l'heure, j'étais un petit peu catégorique, mais c'était plus pour donner l'idée qu'il faut faire attention avec ça, hein, et que lorsqu'on a une parole de prophétie qui concerne le futur très précis d'une personne, moi je pense que c'est bien d'aller en parler au pasteur ou aux anciens. Tu vois? Comment je différencie? Alors c'est une excellente question. La différence, elle est très simple. C'est d'où vient la source? D'où vient la source? Lorsque quelqu'un reçoit de la part de Dieu une parole de prophétie, la source, c'est Dieu. Lorsque quelqu'un va exercer un art divinatoire, pour par exemple trouver les numéros du loto, hein, ou pour savoir quoi que ce soit dans le futur, etc. La source, là, elle n'est pas en Dieu. Elle n'est pas en Dieu. On recherche. Alors, lorsqu'on avait étudié les psaumes, Richard Gelin nous avait expliqué que l'astrologie n'était pas une bonne solution parce que, d'après la Bible, les astres ne parlent de rien. Hein, donc, on ne va pas y trouver ni notre identité parce que je suis né tel jour à telle heure sous telle étoile, je vais être ceci ou cela. Hein, et que dans les étoiles, je n'ai pas trouvé non plus le futur. Donc, les arts divinatoires, quel que soit leur mode de travail, hein, que ce soit dans les étoiles, dans les cartes, dans le marc de café, dans, je ne sais pas trop ce qui existe, hein, je ne suis pas très au courant, mais ce n'est pas la même source. Voilà. Donc, au pire, au mieux, c'est des charlatans. Au pire, c'est le monde démoniaque. Voilà. Donc, autant ne pas y aller. En plus, t'as bien raison de dire que ça coûte cher. Alors que les paroles de prophétie sont données gratuitement par notre Dieu qui nous aime. Qu'est-ce que j'entends comme par prophète homme ressource aujourd'hui? Alors dans Éphésiens 4, Paul décrit que parmi les choses que Dieu donne à son Église, il y a des personnes ou des groupes de personnes qu'on appelle les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Hein, il y a 5 termes qui sont donnés comme ça. Alors les théologiens ne sont pas tous d'accord sur le sens qu'il faut leur accorder, mais le sens qui est clair pour tout le monde, c'est qu'il y a des personnes au sein des églises, et des églises en général, hein, donc de plusieurs églises, des personnes ou des groupes de personnes qui vont apporter quelque chose de la part de Dieu qui est très spécifique. Alors en général, on attribue aux apôtres la capacité de fonder des églises ou d'aider à la fondation des églises. On attribue aux prophètes la capacité de recevoir une vision de Dieu pour le long terme. On attribue à l'évangéliste la capacité de faire en sorte que le peuple de Dieu puisse être armé, équipé pour aller évangéliser et faire connaître l'évangile. Et le pasteur et docteur, lui, son rôle, c'est plus de... Il est équipé de manière spécifique par Dieu pour être le pasteur, donc le berger, celui qui dirige et qui prend soin de la communauté. Et il est docteur ou enseignant pour les enseigner. Voilà. C'est ça, les personnes ressources. Voilà. Ça répond à ta question? Tu vois, Norbert, tu veux compléter? Alors, je vous propose, est-ce qu'on s'accorde quand même quelques minutes de prière? Alors, ça ne va pas être très pratique de prier les uns pour les autres avec des tables. Oui? Oui? Voilà. Puis ce que je vous propose, c'est peut-être on peut se mettre en rond, là. Puis si Jérémy, tu peux nous entraîner dans un champ. Donc,